Le suspense 2 avec William Marks et Pierre Sange.
C'est maintenant à l'éminent docteur Claude Burgelin, spécialiste des écritures du « je », vous le savez, et qui dirigeait en 2008 avec Isabelle Grelle un colloque à Cerisy intitulé « Autofiction » entre parenthèses « S ». Et on doit à Claude, en 2002 au Seuil, un Georges Perec, dont il est l'un des spécialistes, on peut le dire, mais pas seulement, Duras aussi, etc. Et il va s'entretenir avec William Marks. Merci.
Donc il me revient de présenter William Marks. Et il me semble que si quelqu'un mérite bien le titre d'essayiste, c'est lui. Parce que c'est un agitateur, un expérimentateur, un démonstrateur d'idées neuves. Et une posture qui me semble assez rare dans la critique littéraire universitaire, où il y a beaucoup d'exégètes, il a une vision transversale de la littérature qui a un effet très empoignant. Il s'inscrit dans la lignée de quelqu'un comme Auerbach, par exemple. Et il me semble qu'il redonne sens aussi à une discipline souvent contestable dans ses entreprises, qui est la littérature comparée. Parce qu'effectivement, là, la comparaison devient tout à fait raison. Alors, William Marks est, entre autres, l'auteur de 3 essais publiés chez Minuit. « L'adieu à la littérature » en 2005, « Histoire d'une dévalorisation » 18e, 20e siècle, on est donc très proche du débat précédent, « Vie du lettré » en 2009, et apparaître dans quelques jours « Le tombeau d'Œdipe pour une tragédie sans tragique ». J'aime beaucoup la façon dont écrit William Marks parce qu'il a une clarté d'exposition qui est vraiment très précieuse et rare dans l'université. Il y a un refus du jargon universitaire qui est rafraîchissant. Il a une netteté des vues et des explications qui est très convaincante et une fermeté toujours nuancée du propos. Il renoue avec la une belle langue universitaire qu'on n'a pas entendue depuis longtemps. Alors, au centre de sa pensée, il y a une interrogation sur un mot que nous manions tous comme une évidence, alors que ce n'en est évidemment pas une, le mot « littérature ». Au fond, si vous pouvez caractériser l'entreprise de William Marks, c'est d'essayer d'enlever tous les différents vernis, enduits, etc., qui se sont accumulés au cours des siècles autour de ce mot. Et effectivement, il s'en est accumulé. Sa théorie est donc celle qu'il exprime dans « L'adieu à la littérature », c'est qu'il y a eu une phase d'expansion de la littérature et qui va se culminer avec la notion de sublime, en gros le XVIIIe siècle, et puis une phase d'autonomisation qu'on pourrait caractériser par exemple par le phénomène de l'art pour l'art, et puis à partir de la fin du 19e, à partir de Rimbaud, qui est le précurseur, là, une dévalorisation du mot littérature, et beaucoup d'écrivains fondent leur œuvre sur un adieu à la littérature, et à une littérature, dans une littérature de l'adieu, et la littérature devient le symptôme d'une crise existentielle permanente. Alors, pour entrer dans l'œuvre de William Marks, on va commencer par le commencement et par ses dédicaces. Alors, il y a des dédicaces assez proches. Et puis, une des dédicaces, c'est « À mes maîtres et aux maîtres de mes maîtres ». Et dans « Le tombeau d'Œdipe », les divers chapitres sont dédiés « in memoriam » à d'obscurs philologue, exégète du théâtre grec des 19e et 20e siècles. Et alors que votre entreprise est une entreprise d'ouverture des fenêtres, vous avez besoin de vous référer à vos maîtres et aux maîtres de mes maîtres, ce qui est une dédicace qui ne serait jamais sortie du porte-plume.
Je n'attendais pas à cette question. Comment m'en justifier ? Est-ce qu'il y a de quoi se justifier ? Je ne sais pas, moi, pour prendre un exemple, Albert Camus disait tout ce qu'il devait dans le premier homme à un instituteur qui lui avait appris les lettres, précisément. Et il me semble que par là, j'essaie moi de rendre hommage à ceux, j'aurais bien voulu en fait, j'avais dans Vie du Lettré, j'aurais bien voulu les nommer les uns après les autres, les personnalités en tout cas qui m'avaient le plus marqué, ceux qui m'avaient non seulement ouvert l'esprit à la littérature, mais ceux qui m'avaient appris quelque chose. Et peut-être que la dédicace à mes maîtres et au maître de mes maîtres renvoie pas seulement à mon expérience personnelle, au bout du compte ça n'intéresse personne, mais c'est plutôt à l'idée qu'il y a dans l'histoire de la culture, il y a en fait une succession que j'allais dire, pour reprendre la métaphore ecclésiastique qui a été, ou religieuse qui a été utilisée tout à l'heure, une sorte de succession apostolique, hein, où l'on passe de la littérature de l'Antiquité grecque jusqu'à l'Antiquité romaine. Il y a comme ça, comme on a appelé, un translatio studi, hein, une translation des études et de la culture, en fait, c'est cela que cela signifie, et qui passe par les canaux les plus mineurs, à savoir effectivement les grammairiens ceux qui enseignent les lettres aux enfants, ou à des niveaux plus élevés, au collège, au lycée, à l'université, ceux qui enseignent un savoir. Donc il y a dans cette référence au maître, il y a, disons, la reconnaissance que nous sommes ici en 2012, non pas seulement par la grâce de l'ensemble de 2012 révolutions de la Terre autour du Soleil depuis le début de notre ère, et puis il faudrait compter tout ce qui précède, bien sûr, mais nous sommes en 2012 parce qu'il y a depuis 2000, 3000 ans, 4000 ans, il y a comme cela des scribes, des lettrés, des intellectuels qui transmettent un savoir qui est, à bien des égards, cumulatif. Et ben, nous arrivons, comme disait Pascal, juchés sur des épaules de géants. Nous sommes tout petits, mais quand même, à partir de là, nous pouvons avoir un regard introspectif. Et j'assume cet héritage-là, hein, à savoir regarder une histoire totale, si possible, avec le caractère totalement démesuré de la chose, hein, depuis 3000 ans qu'existe, disons, la littérature occidentale. Donc je m'arrête au grec. Hein, voilà, malheureusement, je n'ai pas les compétences pour parler de l'épopée de Gilgamesh, etc. Et deuxième chose, donc ça c'est le côté héritage, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais quand même qui fait de nous ce que nous sommes. Deuxième chose, dans le tombeau d'Édipe, je dédie chacun des quatre chapitres à des lettrés, qui sont en fait des philologues. En particulier, j'en ai un qui me vient à l'esprit, là, qui n'est pas tout à fait obscur, hein, qui est l'un des grands maîtres des études grecques, qui a totalement renversé la lecture de bien des textes antiques, à savoir Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, qui a vécu à la charnière du 19e et 20e siècle, qui est un contemporain de Nietzsche, et contre lequel Nietzsche s'est du reste bien battu, enfin plutôt c'est Wilamowitz qui s'est battu contre Nietzsche. Et il me semble que dans cette discipline de la philologie, dont Nietzsche lui-même se réclamait, à bien des égards, même s'il a pratiqué une philologie un peu spéciale, mais malgré tout, il y a quelque chose d'important là-dedans, pour Nietzsche, dans la philologie, il y a un rapport au texte et à la connaissance qui est un rapport non pas seulement d'héritage, comme je disais tout à l'heure, mais de regard critique. Ces quelques philologues que j'ai pointés, à quels je rends un hommage dérisoire, en fait, ce sont des gens qui, par un regard critique, par une étude extrêmement scrupuleuse des sources, par une confrontation des textes entre eux, et précisément par une sorte de liberté à l'égard de tout ce qui nous a été appris concernant les textes anciens, et concernant peut-être ce qu'on leur avait appris eux-mêmes quand ils étaient élèves, étudiants, eh bien, on réussit à créer un nouveau savoir et à nous faire, à créer une nouvelle vision de ces textes anciens. Donc il me semble que la philologie, de ce point de vue-là, est une école de liberté et une école critique qui se manifeste d'abord par le service absolu des textes. Croire au texte et ne pas se mettre soi-même en avant, mais au contraire, essayer de leur rendre une sorte de voilà de fraîcheur, de fraîcheur originelle.
Oui, on est vraiment là au cœur même de votre démarche, enfin entre ce souci de transmission et de vous inscrire dans ce lignage, et en même temps de rupture fidèle, si j'ose dire. Nous avons maintenant 3 livres, et on a l'impression qu'on assiste à quelque chose qu'on pourrait comparer à ce que Jacques Roubaud appelle projet avec un P majuscule. Il y a une cathédrale, c'est peut-être une image un peu écrasante pour l'instant, mais quelque chose est en train de se construire. Ouvrage après ouvrage, et on voit bien comment il se... Voilà, il y a un édifice intellectuel qui est en train de naître. Alors, comment est né ce projet? Et d'où vient-il? Où va-t-il?
Comment est né ce projet? Si je remonte le plus loin possible, c'était quand j'étais lycéen, et moi j'étais encore de la génération qui travaillait sur le Lagarde et Michard, donc j'avais des maîtres qui travaillaient beaucoup sur ce manuel, qui n'est du reste pas mauvais du tout. Et moi j'ai beaucoup retenu de Lagarde et Michard, qui a énormément de qualité, mais j'étais extrêmement frappé et saisi par les questions qui suivaient les textes du Lagarde, les textes qui nous étaient proposés dans l'anthologie. Je ne sais plus, c'était, j'ai pas de question en tête, mais c'était quel est le caractère de ce personnage. Il fallait répondre. J'avais un maître qui nous disait de répondre à la question numéro 1 et 3 pour le mardi matin, et j'avoue que je me creusais la tête pour savoir mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus, parce que au bout du compte tout est dans le texte déjà. Quel discours attend-on de moi? Et bref, j'ai eu pendant assez longtemps, et pendant mes premières années d'études universitaires, beaucoup de malaise à l'égard des études littéraires françaises. Et en revanche, je me retrouvais beaucoup plus dans les études, de l'Antiquité, que j'ai poussé assez loin. Et jusqu'à ce que, malgré tout, j'étais attiré par notre littérature, jusqu'à ce que je me rende compte d'une certaine manière que mon problème avec la littérature, c'était peut-être le problème de la littérature. C'est-à-dire que, c'est très très prétentieux de dire cela, mais ça l'est moins que si je vais essayer de l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, je n'étais pas rentré dans le système d'interrogation de la littérature, qui était celui de mes maîtres, disons, puisque ce mot évidemment devient encore le leitmotiv de cet entretien, et qu'il fallait que j'interroge en fait la nature même de cet objet littéraire qu'on soumettait à mon examen. Et à partir de là, c'est un ensemble d'interrogations qui se déploie pour moi, à savoir que ce qu'on m'apprend comme étant effectivement une sorte de donnée, à savoir l'entreprise littéraire telle que nous la connaissons ou que nous la connaissions disons à la fin du XXe siècle et telle qu'en fait qui en fait a une histoire. En fait, je me rendais compte que elle avait effectivement ce que je viens de dire. Une histoire, et que comme le disait très bien Alain Nadeau tout à l'heure, j'ai adoré l'entendre dire cela, effectivement, la littérature, elle naît à la fin, avec un grand L, elle naît à la fin du XVIIIe siècle, mais auparavant, on a tout autre chose, on a de la poésie, on a des belles lettres, etc. Et donc, à partir du moment où je peux prendre la distance vis-à-vis d'un objet qu'on me proposait, en gros, à l'adoration, je peux essayer de l'interroger et essayer de voir ce qui fait la spécificité de cet objet-là. C'est vraiment la base, je crois, de mon interrogation. Cette histoire de l'idée de littérature, avec tout ce qu'on entend sous ce mot. Aujourd'hui, c'est le terme littérature qu'on emploie, mais auparavant, c'était poésie, belles lettres, et puis parfois, on n'avait pas de mots, tout simplement. C'était d'autres ensembles, d'autres configurations. Et j'ai une vision, de ce point de vue-là, très, très héraclitéenne de la chose. Donc, y aura toujours un art du langage, forcément, puisque le langage est peut-être la plus essentielle de notre être, mais il peut prendre différentes formes, différentes fonctions. Donc, là, je n'ai aucune inquiétude, mais il a des fonctions. On a eu deux siècles et demi de littérature. Peut-être que les choses pourront changer, comme elles étaient différentes avant.
Alors, c'est effectivement une entreprise de déconstruction à laquelle on assiste. Pour en prendre un exemple, je vais prendre l'exemple dans le dernier volume, là, le tombeau d'Œdipe, pour une tragédie sans tragique. Et au fond, ce que vous essayez de montrer à travers une méditation qui structure tout le livre autour de la dernière pièce de Sophocle, Œdipe à Colone, c'est comment plaquer les catégories qui se sont accumulées au cours des siècles récents autour de la notion de tragique est une façon de ne rien comprendre à ce qui pouvait réellement se passer dans la Grèce du 4e siècle avant Jésus-Christ autour d'une représentation d'Œdipe à Colone. Et vous finissez par dire qu'au fond, c'est peut-être le théâtre no-japonais qui se permettrait de mieux approcher cette réalité-là plutôt que, évidemment, la lecture de Jean Racine. Et dans l'ensemble, donc, c'est tout un travail que vous faites de décapage, déconstruction du mot littérature. J'évoquais les vernis qu'on enlève là. Alors ma question serait, une fois qu'on a enlevé les vernis, les enduits, les concepts, etc., quoi ?
J'avoue que je ne sais pas en fait, je n'ai pas la réponse, hein. Vous avez lu jusqu'à la fin, donc vous savez qu'à la fin je reste dans une sorte de mystère, d'énigmaticité de cet objet de la tragédie grecque. Et je n'ose pas tellement aller plus avant. J'essaie de tracer des pistes. Ma position, en quelque sorte, est assez parallèle à celle d'Alain Nadeau tout à l'heure, à savoir qu'après l'écriture, quoi ? Alors il y a la navigation. Pour l'un, pour moi, c'est l'interrogation, la lecture, bien sûr. Et puis, bien sûr, à un moment donné, l'interprétation va arriver, mais il faut au moins interpréter en sachant que tout ce que nous allons dire, nous le faisons sous réserve. Alors, je pense que ce travail-là est un travail à dimension éminemment critique, hein, c'est-à-dire réellement, il s'agit, comme vous l'avez dit, de décaper d'abord deux objets. Hein, le premier objet, et c'est peut-être le plus important, c'est l'objet littérature, hein, que nous plaquons par force, parce que nous sommes nés dedans et que nous avons tendance, malgré nous, à envisager n'importe quel texte qui nous est présenté comme littéraire, à l'envisager comme de la littérature. C'est-à-dire, c'est quoi la littérature ? C'est-à-dire qu'un texte qui est détaché du moment de son énonciation et qui est comme ça, un peu en l'air et proposé à notre adoration, hein, disons, puisqu'il était bien entendu, cela a été dit tout à l'heure, que à bien des égards, la littérature a remplacé la religion. Alors, la question, c'est que le problème, c'est qu'évidemment, les tragédies grecques n'étaient pas comme cela, et ce qu'elles étaient auparavant. Au bout du compte, nous avons très peu d'éléments pour nous le dire. Nous avons quelques témoignages, nous avons archéologiques, des textes, etc., mais très très peu. Mais cela ne nous gêne pas. Cela ne nous gêne pas parce que précisément, nous sommes dans le monde littéraire qui précisément adore tous ces textes qui sont détachés de leur énonciation. Donc, plus un texte est loin de son énonciation, moins nous sommes gênés et plus ce texte nous apparaît comme littéraire. Donc, l'entreprise que j'ai faite, c'est précisément de détacher d'abord cet objet-là de l'objet littérature, de la notion même de littérature. Et puis deuxième mot, hein, comme vous l'avez dit, c'est le mot ou concept de tragique, hein, qui est un mot qui nous paraît de façon tautologique, hein, aller de pair avec la question de la tragédie grecque. Hein. Les tragédies grecques sont tragiques en apparence, hein, elles devraient l'être. Et en fait, quand on regarde plus précisément l'histoire de ce mot a ou ce concept a une histoire extrêmement récente. Il n'y a pas de concept de tragique au sens philosophique du terme, à savoir, disons, l'homme accablé par son destin et ça finit accablé de manière funeste, hein, tout cela finit mal. Ça a commencé, au bout du compte, à la fin du XVIIIe siècle avec la philosophie allemande. Et mon objectif, ça a été de montrer que ce concept, qui est un concept merveilleux, hein, loin de moi l'idée refuser ce concept tragique dans sa productivité qui a été immense, et même pour nous, je veux dire, n'importe qui peut penser que la vie d'existence est tragique, c'est comme le faisait Nietzsche par exemple, enfin, de cette manière, c'est une conception tout à fait possible et acceptable de l'existence. Mais quant à dire que les tragédies grecques étaient tragiques, qu'elles représentaient toutes ce concept-là, Alors là, je dis non. il y a un vrai problème, et j'essaie de le montrer par une étude très très précise de la transmission des textes tragiques.
Alors, vous êtes aussi l'auteur de « Vie du lettré », qui est un livre enchanteur, qui est construit autour de 24 chapitres, qui représente d'une certaine façon la journée du lettré, du réveil à la nuit, qui représente le temps du lettré de la naissance à la mort. Et alors on parcourt les temps et les lieux, le cabinet, le jardin, et les activités favorites du lettré, jusque y compris la querelle. Alors quel rapport y a-t-il entre ce mot de littérature tel que vous venez de l'évoquer et le lettré? Parce que le lettré, c'est l'exégète, le moine du Moyen-Âge, le rabbin dans sa yeshiva, etc., l'universitaire. Donc, quel rapport entre le lettré et la littérature?
Ben, en fait, mon objectif, comme vous l'avez compris, c'est vraiment d'essayer de déplacer cet objet littérature qui est sans cesse devant nos yeux et de le relativiser. Et donc, il s'agit de voir qu'il existe d'autres rapports au texte que le rapport littéraire qui est le nôtre. Travailler sur les lettrés depuis les scribes mésopotamiens, disons, en fait, je commence plutôt à partir de Confucius, voilà, qui est l'ancêtre des lettrés d'Asie. Eh bien, travailler sur ces lettrés-là, en passant par les scolastiques, les humanistes, à la Renaissance, etc., eh bien, pour moi, ça a été une manière d'essayer de montrer qu'il pouvait exister un autre rapport au texte que le rapport littéraire, qui est un rapport voilà, d'interrogation des textes, d'interrogation critique, de transmission, de soumission, qui n'est pas un rapport de création, hein, nécessairement, à la différence de la littérature où un lettré n'est pas un écrivain. Forcément, les lettrés peuvent être, au contraire, d'humbles éditeurs de textes qui les annotent. Dans certains cas, ils peuvent être aussi des traducteurs, ou bien peut-être simplement ceux qui les enseignent. Et puis, c'est aussi ceux qui, pour eux, pour leur simple plaisir, la notion de plaisir n'est peut-être pas tout à fait ici adéquate, mais pour leur connaissance, pour l'accroissement de leur être, eh bien, constituent une bibliothèque, une collection, et puis accroissent donc leur connaissance et leur être sans vouloir nécessairement passer cela à qui que ce soit d'autre. Tout cela, me semble-t-il, échappe à bien des égards à notre relation littéraire aux choses, et il me semblait intéressant de montrer cette possibilité-là. Le thème de ces enjeux, c'est écrire encore, et en gros, en interrogeant une sorte, posant la question d'une sorte d'historicité de la littérature. Alors, ce que sera la littérature ensuite, quand dans quelques années, ou ce qu'elle est en train de devenir, parce que je pense qu'il y a des changements de paradigme qui ont lieu actuellement. Je ne sais pas, des choses, on pourra en discuter, peut-être pas ici, mais dans d'autres de ces débats. Mais il me semble qu'il y a eu il y aura peut-être un après de la littérature, mais il y a aussi un avant. Cet avant, c'est précisément cette relation lettrée au texte, c'est précisément ce que faisaient Sophocle ou Eschyle ou Euripide, qui n'étaient pas des écrivains au sens littéraire du terme, mais malgré tout, ils ont fait quelque chose qui compte. Et puis, on pourrait en citer d'autres, Villon, Dante, etc. Aucun ne faisait de la littérature, il faisait autre chose, et malgré tout, ça a du sens pour nous grâce à l'objet littéraire. Donc voilà, il faut pas dramatiser, hein. Il faut rien prendre au tragique, pas la tragédie bien sûr, et pas non plus cette idée d'une fin ou d'un changement de paradigme littéraire. Voilà, les choses changent, c'est pas la fin du monde.
Alors, le lettré tel que vous le dessinez, c'est un personnage bien passionnant, parce que vous en faites une lecture à la fois presque chrétienne. Je voudrais souligner quelques phrases. Il a sacrifié sa vie pour faire entendre la parole d'autrui. La force paradoxale du lettré, il avoue non pas sa nullité, mais son insuffisance. Le lettré enfin, se voue à la transmission aux autres. Enfin, il y a quelque chose d'oblatif dans ce que fait le lettré. Donc, je parle de vocabulaire, là, de lexique post-chrétien. Hein. Et puis, de temps en temps, vous avez des formules presque beaucoup plus nietzschéennes sur le lettré. Au fond, vous en faites parfois une figure de vainqueur, notamment parce qu'il a un rapport libre avec le temps. Il sait ce qu'est le passage, la péremption des formes, et vous dites qu'il travaille à l'augmentation de son être. Alors j'aimerais que voilà, cette économie du sacrificiel et l'augmentation de l'être, vous nous éclairiez.
Oh ben je pense qu'un bon mystique chrétien pourrait vous répondre, enfin ne pourrait pas, vous ne vous répondrez pas, c'est une sorte de mystique apophatique parce qu'il ne vous répondrait pas. Mais je pense que, je sais pas, Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila vous dirait fort bien que s'anéantir devant Dieu, c'est aussi une manière à accroître son être. Donc là, je pense que le paradoxe peut être réductible d'un point de vue mystique, mais là n'est pas mon ambition. Peut-être que si j'insiste là-dessus, c'est que je voulais vraiment souligner la dimension éthique de ce rapport au texte qui est celui du lettré. La question de la philologie m'intéresse beaucoup dans cette rigueur, dans le fait de ne pas mettre le moi en avant. Hein, Pascal disait le moi est haïssable. Je pense que il faut un moment. À mon avis, il peut y avoir plusieurs types de lectures et toutes, heureusement, sont possibles et sont souhaitables. Mais avant que n'intervienne la lecture interprétative, je voudrais vraiment qu'intervienne toujours une lecture qui est une lecture critique d'établissement du texte et d'établissement de la vérité d'un texte. C'est quelque chose, si j'insiste beaucoup sur cette éthique, c'est-à-dire le fait de, avant de vouloir dire toutes les idées que nous donne un texte, d'abord, est-ce que nous avons le bon texte? Est-ce que c'est ce texte-là qui a été écrit? Est-ce qu'il n'y a pas des interpolations, etc.? Et le problème peut se poser, pas seulement pour des textes les plus anciens, où ça c'est la chose est évidente, qu'il faut faire appel à des philologues pour faire ce travail, mais même pour des textes, on le sait, pour des textes très, très récents. On a découvert, par exemple, le cas est typique, il y a un changement de paradigme, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'à la recherche du temps perdu, en fait, ce n'était pas une œuvre finie, contrairement à ce qu'on a pu le croire, ce qu'on a pu croire pendant, jusque dans les années 80-90, on avait pu croire qu'effectivement, la chose s'arrêtait autant retrouver. Maintenant, nous savons, parce qu'on a on est allé regarder dans les derniers cahiers qui composent la recherche, qu'en fait, la recherche du temps perdu telle que nous la connaissons et telle que nous l'aimons, en fait, c'est une construction éditoriale qui a terminé le texte d'une manière à peu près adéquate, mais que le livre était encore inachevé, qu'il aurait pu finir tout autrement. Et c'est valable pour la recherche, c'est valable pour le Contre Sainte-Beuve. Et donc, c'est quand même incroyable que pour un texte que nous pouvions penser comme canonique, en fait, les choses auraient pu être très différentes. Et il faut faire le travail hein, d'aller regarder de près. Alors, j'insiste beaucoup sur le caractère éthique, parce qu'éthique de la lecture, d'une certaine lecture qui est essentielle à mon sens, parce que il me semble que nous sommes très menacés actuellement par une sorte de multiplication de faux textes qui apparaissent sur Internet. Hein. C'est merveilleux, on a des tonnes de textes, de versions, mais on ne sait jamais à quelle version on a affaire. Il y a des interpolations, on ne sait pas. Nous manquons, par exemple, sur Internet, c'est merveilleux d'avoir ces outils à la disposition, mais nous manquons d'un outil qui puisse nous dire, voilà, tel texte est le texte qui a été voulu par l'auteur, qui correspond à une véritable scientificité, une véritable authenticité. Et ce qui est valable sur Internet est aussi valable, je trouve, de manière plus générale, pour un certain journalisme qui ne vérifie pas ses sources et qui colporte des rumeurs. Donc, contre ça, je voudrais introduire cette éthique du texte.
Alors, bien intéressant. Vous dites comme ça, le lettré, vous saviez au triomphe de la vérité, et vous venez d'y insister sur notamment ce que vous venez de dire sur les textes et leur établissement. Mais est-ce que là, vous ne jouez pas sur le double registre, enfin, exactitude, vérité? Parce qu'une chose est l'exactitude, une autre la vérité.
Oui. Alors peut-être que ce terme de vérité, peut-être que je l'ai employé un peu à tort. Je peut-être le traiterai dans l'exactitude. C'est pour ça que, disons, dans le, peut-être que dans le, je ne sais pas, dans le paradigme, les trois, hein, le beau, le bien, le vrai, le lettré est peut-être plutôt effectivement du côté du bien, hein, c'est-à-dire de l'éthique, de la dimension éthique de ce rapport au texte. Le vrai, c'est peut-être du domaine de la philosophie, de l'interprétation. C'est peut-être à ce niveau-là que cela se situe. Je ne sais pas si...
Mais alors, au fond, où en êtes-vous avec l'herméneutique ?
Ah, c'est une très bonne question. J'espère que mes rapports sont au mieux. Mais je voudrais simplement... Ça dépend de quelle herméneutique on entend. Je pense que nous sommes des êtres herméneutiques, nous sommes des êtres interprétatifs. Hein, peut-être parce que nous sommes historiquement situés dans une période, disons, littéraire qui nous voue à l'herméneutique. Et peut-être aussi parce que c'est une dimension propre de l'humain. C'est possible. Mais, donc, je crois qu'il y a nous avons une pulsion herméneutique et à interpréter, à faire sens de tout. C'est là que je voudrais qu'intervint cette dimension lettrée, philologique de la lecture pour dire... Stop, bien sûr, interprétons parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais interprétons au moins sur de bonnes bases. Je crois que l'herméneutique est indispensable à notre existence, mais il faut qu'à un moment, peut-être, on dise il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dire. Si l'herméneutique, c'est rendre donner la parole au texte dans une sorte de fidélité à une impossible exactitude, peut-être. Moi, je dis, alors là, parfaitement, si c'est essayer de mettre dans les textes toutes les lubies
que des interprétations subdélirantes ont été parfois formidablement éclairantes.
Ah, mais oui. Oui, non, mais c'est pour ça que je ne veux pas l'empêcher. D'abord, je n'ai pas le pouvoir et je n'en ai pas le désir non plus. Je pense qu'il est fort bien... Je crois qu'il y a deux moments. Cette question, il faut distinguer des moments. Moi-même, quand j'adore, avec mes étudiants, parler de textes très, très anciens, et à un moment, je crois qu'il faut essayer de dire aux étudiants, enfin leur montrer que ces textes peuvent encore nous parler, qu'ils nous disent quelque chose, hein, malgré tout, malgré leurs différences, malgré leur éloignement. Et là, on est en plein dans la magnétique. Il y a une actualité de l'Antiquité la plus éloignée. Je prends l'Antiquité parce que c'est facile, mais on pourrait prendre des textes même beaucoup plus récents. Malgré tout, cette herméneutique-là, c'est-à-dire cette sorte de rapprochement des textes, j'essaie de le faire, et je pense qu'on peut essayer de le faire, en essayant de... L'altérité en elle-même, absolue, est en elle-même source d'enseignement et source d'actualité. Je crois que l'autre absolu est quelque chose qui peut nous émerveiller, nous étonner et changer notre existence. C'était comme ça que Rilke terminait l'un de ses poèmes, hein, « Change ta vie ». À propos, juste en regardant le buste d'un Apollon, je crois, ou un Kouros. Et effectivement, je crois que l'altérité absolue de l'Antiquité peut nous amener à changer notre vie. Mais d'une manière qui est peut-être difficilement énonçable, ici en tout cas.
Vie du lettré se termine par le chapitre de la mort du lettré. Et pour illustrer la mort du lettré, vous mettez en scène la mort de Roland Barthes. Et je voudrais lire les quelques lignes que vous écrivez à ce propos. Dans les séances finales de son dernier cours, il étudie les détails concrets d'une existence d'écrivain, maison, maladie, emploi du temps, ressuscitant par ce moyen la dimension incarnée de toute entreprise d'écriture. En parallèle, il projette alors de composer un ouvrage sur l'art de vivre, où se mêleraient des réflexions sur les plaisirs de l'étude et de la lecture, de la relation à la nourriture, à l'espace, au voyage, aux amis. La vie comme œuvre, note Barthes pour son cours. Dans son esprit, il s'agit d'abord de la vie du romancier, mais sans doute ne désespère-t-il pas de pouvoir aussi s'appliquer à lui-même la formule, non à tort, car c'est là en effet la juste définition d'une vie de lettré. Alors, est-ce qu'en écrivant « Vie du lettré », vous avez accompli le projet de Barthes ? Comment vous vous situez par rapport à ce que Barthes esquisse ici, et peut-être la figure de Roland Barthes ?
D'abord, quelle figure, parce qu'il y a, oui, des Roland Barthes. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a un S à la fin du patronyme. Comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, nous avons grandi dans Barthes. C'est une référence absolue. Je pense que c'est le critique, l'autre, je dirais même l'écrivain, plus que ici critique, qui devient de plus en plus incontournable pour tous ceux qui essaient de penser aujourd'hui. Il y a une telle, plus précisément, pluralité d'approches hein, chez Roland Barthes, que chacun peut avoir le sien. Et c'est vrai que là, je me référais surtout à ces cours dont la publication actuellement a fait beaucoup, je crois, pour renouveler la vision de Roland Barthes. C'est ces cours du Collège de France, sur le roman ou sur le comment vivre ensemble, qui sont des choses absolument extraordinaires et qui nous, précisément, je trouve, nous propose un autre rapport au texte, hein, c'est-à-dire voilà, quelque chose où il y a une sorte d'interpénétration de l'existence et de l'écrit qui, on pourrait trouver aujourd'hui quantité de critiques qui vivent hein, sur cet acquis de ce dernier Barthes. Alors, c'est vrai que Roland Barthes avait un peu dans son Roland Barthes par lui-même, il voulait faire une sorte d'éthologie, il avait le projet de faire une éthologie des intellectuels, une entomologie des intellectuels, je sais plus. C'est un peu ça que j'ai essayé de faire. Alors, modestement, je m'inscris un peu dans cette filiation, mais je reconnais ce parrainage.
Le débat précédent a tourné à tout un moment autour de la notion de religiosité. Et vous dessinez le lettré comme, à bien des égards, un religieux, c'est-à-dire un être du lien, qui établit le lien avec les textes du passé, le lien avec autrui, etc. Et en même temps, vous dites que le lettré hâte la mort des dieux, que le travail d'exégèse est cruel pour les dieux, et en même temps, vous montrez bien que le lien du religieux, ça sert aussi à étouffer. Le savoir réduit au silence son objet, l'étouffe, puis lui donne le coup de grâce.
C'est cette dimension critique de la philologie ou du travail lettré dont je parlais tout à l'heure, à savoir que lorsqu'on s'interroge sur les textes, effectivement, on peut remettre en question toutes les lectures qui n'ont été faites, toutes les interprétations. Les moines au Moyen-Âge recopiaient les textes anciens, mais ils étaient extrêmement surveillés. Hein. Là-dedans, c'était précisément une manière aussi de cadrer leur travail. Il est assez intéressant que, par exemple, c'est des choses bien connues, hein, mais que les changements de paradigme religieux, la réforme est née précisément, en partie, pas seulement, mais en partie, d'une nouvelle lecture des textes, une lecture philologique des textes, quand on se rend compte que tel mot que l'on a dans la version latine, voilà, de la Vulgate, en fait, ne correspond pas à l'hébreu ou au grec ou à l'araméen originel, ce qui remet en question des doctrines, hein, par exemple, voilà, le fait que l'utilisation du mot le mot. Je ne vais pas entrer dans des détails trop techniques, mais bon, il me semble que ce n'est pas un hasard si les lettrés sont souvent, ils interviennent souvent à l'intérieur de cadres religieux, hein, et en même temps, c'est aussi une manière pour les religions instituées de les surveiller. Et voilà, je crois que l'entreprise lettrée est quelque chose qui permet de nous débarrasser des faux dieux, hein, et il y en a beaucoup qui abondent, donc je pense qu'il faut avoir ce regard d'exactitude sur les textes pour débusquer il n'y a pas de vérité, mais il y a des faussetés, je crois, hein. Je crois que c'est peut-être cela que fait le travail du lettré, pour répondre à votre question de tout à l'heure.
Et le contemporain, qu'est-ce qui fait le lettré avec le contemporain, la littérature qui s'écrit, parce que là vous l'avez dessiné à partir de cette relation au passé, et parfois le passé très archaïque, et sur la longue distance temporelle. dans mon travail d'universitaire qui est fait au fond de la micro-lecture de textes contemporains, la question philologique ne se pose pas, la question d'établissement des textes ne se pose pas. Donc je suis amené à faire immédiatement de l'interprétation.
D'abord, je voudrais dire une chose, il n'y a pas que la lecture lettrée, hein, il y a toutes les autres lectures. Donc je ne voudrais pas faire que tout le monde devienne des lettrés, ou c'est pas l'objet. Alors, malgré tout, est-ce que le lettré a quelque chose à faire avec le contemporain? Je pense que la question, c'est où s'arrête le contemporain? On voit que, bien sûr, pour l'immédiat contemporain, voilà, l'actualité de... éditorial des toutes récentes dernières années, bon, on n'a pas besoin d'une lecture lettrée, mais encore. On sait bien que d'une édition à l'autre, lorsqu'un texte est republié, eh bien, il y a des modifications qui sont faites, qui sont parfois volontaires, parfois involontaires. Et pour des auteurs très récents, hein, quand on commence à éditer leurs textes, ben vous savez, vous qui éditez Pérec, Modiano,
l'étoile d'édition en édition,
quand on édite Duras pour la Pléiade, on se rend compte qu'il y a en fait énormément de modifications qui ont lieu d'une édition à l'autre, et savoir mais quel est le bon texte. D'abord, est-ce qu'il y a un bon texte, mais quel texte il faut éditer, quel mettre à partir. Donc, le contemporain, sans lettré, c'est très peu d'années. dès qu'on essaie d'avoir un regard avec un tout petit peu de perspective, eh bien, il faut faire entrer en ligne de compte, je pense, une lecture qui donne l'exactitude de sa plus grande valeur, me semble-t-il.
C'est peut-être le moment de tendre le micro à la salle.
Si vous n'aviez pas de questions, qu'est-ce que je serais contente? Mais non, vous en avez, hélas. On a pris du retard, mais...
Merci beaucoup. On a beaucoup parlé du lettré, et selon mon appréciation, on a parlé un tout petit peu moins de l'adieu à la littérature. Et l'adieu à la littérature, pour moi, est concrètement lié au contemporain. Et je ne reviendrai pas à Auerbach pour expliquer ma thèse, mais William a cité Change ta vie, et vous avez cité Comment vivre ensemble. Et si je me souviens bien de la fin de l'adieu à la littérature, il y a une perspective vers un changement dans la littérature contemporaine. Alors, comment apprécier le contemporain selon cette appréciation de la situation et du développement de la littérature au XIXe et XXe siècle? Et disons, quelle est la situation du contemporain dans ce contexte?
Vaste question. Non, mais le sous-titre de la littérature, c'est « Histoire d'une dévalorisation, 18e, 20e siècle ». Je tiens beaucoup aux dates qui sont indiquées, hein, 20e siècle. Vraiment, cette littérature de la fin ou de l'exténuation dont on a parlé, à mon sens, il y a une sorte de paradigme qui va jusque dans les années 80-90, et on en retrouverait encore des exemples aujourd'hui. Je pense que le livre d'Alain Nadeau rentrerait dedans. Il me semble néanmoins que, mais d'autres seraient peut-être plus à même que moi d'en parler, Dominique Viard et Claude Bourgelin, mais il me semble qu'effectivement il y a un autre paradigme qui a lieu, et que je trouve que, ne serait-ce que pour prendre les dernières années, quand on regarde ce qui est publié, on voit que ce décrochage de ce qu'on aurait pu penser comme étant une sorte de décrochage de la littérature et du réel, pour dire les choses très, très grossièrement, en fait, est en train d'être renversé, et qu'on voit de plus en plus intervenir, en particulier dans la littérature française. Le problème était moindre sans doute dans d'autres littératures, mais on voit effectivement intervenir les actualités, l'actualité la plus brûlante, historique, etc. Je ne vais pas citer de noms, mais nous avons tous en tête qu'il s'agit de Denis Prégoncourt, qu'il s'agisse ou d'Emmanuel Carrère, ou de Kant, ou de Houellebecq, etc. Il y a des choses qui se passent ici et qui sont très importantes, et qui, à mon avis, nous indiquent une autre voie, une autre façon possible de d'écrire. Alors, est-ce que c'est pour cela une sortie du paradigme littéraire institué depuis le romantisme? Ça, je ne sais pas trop encore. Hein, peut-être qu'attendons de voir. Mais en tout cas, il y a des choses impressionnant ce qui se passe. Voilà.
C'était donc la seule question. Merci.
Oui, enfin, elle sera courte, mais pas petite. Je veux dire que moi, je suis très désarçonnée par ce que je viens d'entendre, parce que nulle part, il n'a été question de ce qui est important à mes yeux, c'est-à-dire du fait que la littérature, c'est quand même un objet d'art, et qu'il y a une dimension travail artistique du langage, et que l'écrivain est un artiste, etc. Et j'ai eu l'impression qu'elle était réduite à une dimension interprétative, et je dis bien réduite, et pas du tout agrandie. Voilà.
Oui, c'est l'évidence que vous indiquez ici, et c'est un peu l'évidence indicible. En fait, tout à l'heure, quand je parlais des questions de la guerre des Michards, je me souviens aussi de ces questions qui me désarçonnaient encore plus, beaucoup plus que celle du caractère. C'était, je ne sais pas, en quoi telle action est-elle, ou tel récit est-il beau ou réussi, etc. Montrer l'art du romancier dans cette scène. Ah là là. Mais je suis entièrement d'accord. Nous n'irions pas de la littérature si nous ne partagions pas cette dimension esthétique. Mais comment pouvons-nous en parler ? Non mais oui, mais qu'est-ce que c'est que l'usage artistique ? Cet usage artistique, c'est un usage qui a lui-même une histoire. Hein. Donc nous sommes d'accord, mais c'est quelque chose qui est historiquement situé. Nous sommes dedans. Donc nous avons tous cette appréciation, et Dieu merci, moi le premier, enfin ou le dernier, en tout cas je l'ai comme vous, hein, cette dimension esthétique. C'est la chose dont il est le plus difficile de parler. Et c'est là justement que je trouve qu'il y a un vrai problème dans la critique pour parler de l'art du romancier ou l'art de l'auteur de théâtre.
Il y a encore une question de Laurent Lotti.
Merci. Je voudrais vous essayer peut-être de résoudre, enfin de concilier les contraires, d'aller plus loin que la remarque qui a été faite auparavant, là, tout en allant peut-être aussi dans votre sens, en vous livrant ma pulsion herméneutique, dont vous ferez ce que vous voudrez. En fait, je voudrais vous suggérer une double lecture de la dédicace de William Marx qui a s'y intéressé, et moi aussi, Claude Burgelin. Quand je l'ai entendu, moi, en fait, au maître de mes maîtres, j'ai immédiatement pensé à toute l'histoire de la transmission culturelle dont j'hérite et dont je suis si heureux d'hériter comme lettré aussi. Et puis j'ai pensé aussi à toute autre chose. J'ai pensé qu'au maître de mes maîtres, c'était une dédicace qu'aurait très bien pu faire mon ami Diderot dans Jacques le Fataliste. Et c'est une interprétation que... S'il l'avait fait, disons, ça aurait été en deux sens. Et Diderot, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui n'est pas littéraire, enfin, pas n'importe qui pour votre propos, hein, parce que le mot n'a pas ce sens-là à l'époque. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui est d'un des très rares athées de son époque, un athée que j'aime beaucoup parce qu'il sait que chacun a besoin de croire. Et alors, ces deux personnages, Jacques et son maître, ont des maîtres. Jacques ne cesse de répéter son capitaine qui lui-même lit Spinoza, et Spinoza c'est le grand maître de l'analyse critique du texte, qui est le premier à analyser de manière critique, si on veut commencer à engager la critique avec Pierre Bayle ou Spinoza, c'est la Bible, dont il faut analyser selon Spinoza la véracité, les différentes versions, etc. Donc Jacques a pour maître son capitaine, qui a pour maître Spinoza, et Diderot lui ne cite pas que Spinoza, mais aussi Montaigne, Cervantes, ce sont ses maîtres. Mais il y a un passage extraordinaire, je crois que je me souviens d'une petite phrase, au moins. Le maître, lui, avait 100 maîtres, comme vous, lecteur. Et ses maîtres, après j'ai oublié la phrase exacte, bon. Ses maîtres, ce sont ses passions. Et je crois que la littérature, c'est pour moi, comme pour vous, des centaines, des milliers de générations, et je crois qu'il y a la culture orale avant. Hein, bon. Ce sont des siècles, des millénaires de culture transmise. Et ce sont nos passions. Et pour moi qui accorde tant d'importance, et comme je pense nous tous ici et vous aussi à l'enseignement, je crois que ça c'est une vision, une conception, celle que je suis en train de défendre, là, qui serait celle d'une école laïque, émancipatrice, et aussi dont les maîtres nous libèrent. Et nous libèrent jusqu'à tenter de tenter d'entrevoir ce que sont nos passions.
Vaste question là encore, mais je suis entièrement d'accord, donc vous allez entièrement dans le sens. Puisque vous parlez de des passions et qu'il était question de l'esthétique tout à l'heure, je voudrais juste peut-être terminer là-dessus. C'est-à-dire que, bien sûr, je n'ai pas parlé de cette dimension esthétique des œuvres et Dieu, parce qu'elles ont aussi beaucoup d'autres choses à nous dire que l'esthétique, malgré tout. Elles ont cette dimension esthétique. Mais cela dit, pour vous dire et pour vous avouer une chose, quand j'écris ces essais, j'ai malgré tout en tête le plaisir du lecteur. Je n'échappe pas à mon temps, vous voyez. Donc, j'essaie aussi, de cette manière, de mettre en scène quelque chose, de créer, de jouer avec ses passions. On peut essayer, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, on peut essayer, même lorsqu'on fait une sorte de réflexion critique, d'essayer de mettre du beau. Le mot est très, très... peut-être pas tout à fait à sa place ici, mais un certain plaisir, en tout cas. Donc, mais c'est la chose dont il est très difficile de parler, vous voyez. Mais effectivement, la question des passions est une question tout à fait importante pour la définition même de la fonction des objets, textes, littéraires.
Je confirme, il s'agit de textes de plaisir. On en reste là ?
Oui, merci infiniment à tous les deux.